que toujours il va se servir, il va influencer, il va faire les choses pour qu'il puisse arriver à notre conscience. Et là, la semence est jetée dans la terre qui s'appelle Saül, hein, tous ces noms-là. Elle est jetée en elle. Et c'est formidable, c'est que ce nom, hein, Saül, hein, vous voyez d'où il vient ce nom. Oui, hein. Premier roi d'Israël, Saül, premier roi d'Israël, hein, qui après il y aura toutes les affaires avec David et tout ça, mais Saül, le premier roi d'Israël. Et qui veut dire, ça veut dire qui a été demandé. Demandé, hein, Saül, ça veut dire ça, demandé. Qui a été demandé? Par qui a-t-il été demandé? Demandé en mariage, bien sûr. Comme chacun de nous, toujours ces gens-là, on est demandé, l'histoire de la vie, c'est ça. C'est que nous sommes demandés en mariage. C'est que nous sommes demandés. C'est ça le mystère d'un appel. Nous sommes appelés à quoi? Appelés. On n'ose même pas le dire. Appelés à devenir Dieu avec Dieu. Chacun d'entre nous, chaque être humain. Et de faire participer, d'entraîner la création tout entière dans ce mystère. Appeler, demander. Qui a été demandé? Voilà, Saül. Il va prendre ensuite, alors c'est ça, c'est qu'après, celui qui, quand il va faire une expérience, et vous savez qu'il va choisir un autre nom, il va plus s'appeler, il va abandonner son nom de Saül, et il va s'appeler Paul. Et Paul, ça veut simplement dire, en latin, ça veut dire petit, le petit. Paulus, le petit. Et assez souvent, il s'appellera l'avorton, le microbe. Vraiment, je suis rien du tout, moi, rien du tout. Parce qu'en plus, je martyrisais. En plus de ça, je martyrisais. Je faisais mon honneur d'aller écraser et de résoudre à rien du tout la communauté chrétienne. Je suis un avorton. Voilà. Alors on peut continuer. On va reprendre, et là, par l'intermédiaire de Luc, hein, qui a écrit les Actes des Apôtres, on a au chapitre 9 un récit mais qui est bien concordant avec la manière dont Paul en parle, puisqu'il raconte aussi sa conversion dans un passage de ses lettres. Et voilà, on a au chapitre 9 comment s'est passé l'expérience de la résurrection pour l'apôtre Saül qui devient Paulus, le petit, l'avorton, le microbe. Cependant, Saül, ne respirant toujours que menaces et carnages à l'égard des disciples du Seigneur, c'est bien acte 9, acte des apôtres. Vous savez que les Actes des Apôtres sont écrits par Saint Luc et que pendant assez longtemps, on ne distinguait pas. Il y avait 5 livres dans ce qu'étaient les évangiles. Il y avait les 5 évangiles et on rajoutait toujours les Actes des Apôtres. Hein, parce que, on est convaincu, on sait aujourd'hui que l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres sont en tout cas formalisés, écrits par la même personne. Dans son édition finale. Hein. Donc, cependant, Saül, ne respirant toujours que menaces et carnages à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelque adepte de la voie, homme ou femme, il les amena enchaînés à Jérusalem. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Alors, hein, voilà, alors on prend ça, là. Hein. Alors là aussi, vous savez qu'on ne peut pas prendre ces paroles-là à la lettre. Hein. On est là, dans un récit qui essaye d'être épique, qui est, qu'on en voit, et puis comment on peut se raconter les choses, et on peut parler des choses, des mystères intérieurs. Et il s'avère que, bien, Paul chemine. Il est dans toutes ces affaires-là, il fait son travail, etc., mais il fait route. Il faisait route. Qu'est-ce qu'il faisait route? Est-ce que la petite graine qu'il était dans sa tête ou dans son cœur, de cette folie de celui qu'on avait, qu'on était en train de martyriser et qui prenait le temps de prendre la peine de dire à son Dieu, surtout ne leur en veux pas à eux. Ça reste là, ça taraude une histoire comme ça. Saint Paul le dira, l'expliquera dans une des lettres de ses lettres, il dira, la manière que vous avez d'être, d'évangéliser, c'est de mettre des gros paquets de braise sur la tête des gens, par l'amour extrême dont vous les aimez. Parce que ça taraude les cœurs. Parce que lui, c'est ce qui lui est arrivé. Il a été taraudé par cette affaire-là. Parce qu'on a beau avoir des raisons, on est un être humain. Et un être humain, ça a une conscience. Et Dieu y parle et n'arrête pas d'essayer de le remettre dans son droit chemin qui est son bonheur. Alors, il faisait route, s'acheminait. Et il s'approchait de Damas quand soudain une lumière venue du ciel. Aujourd'hui, nous savons où est le ciel. Le sein du Père, le ciel, où est-il, ses cieux, hein, où, je ne sais plus quel astronaute, fier de lui, vraiment merveilleux, arrive sur la Lune et dit, il n'y a personne. Ah, je te jure que vraiment, le ciel, où est-il, ce ciel de Dieu? Mais c'est Jésus, le ciel de Dieu. Et donc, une lumière qui vient du ciel, de l'intérieur, il perçoit que c'est une lumière qui vient de cette parole, de ce Yeshua, déjà. Une lumière qui vient, l'enveloppe de sa clarté. Intérieurement, il commence, d'un seul coup, ça comprend en lui. Parce que parfois, vous le savez bien, la manière dont les cheminements se font dans nos têtes, des fois on se dit, mais que ça se fait tout seul, quoi. Il y a quelque chose qui se débloque, ça s'ouvre, la lumière venue du ciel, l'enveloppe de sa clarté. Une révélation, hein, une conversion, le mystère de la foi vient toujours d'une lumière. On comprend des choses. Parce qu'on est sur la terre avec les grandes questions. Personne n'y échappe à ces grandes questions. Personne n'y échappe. On peut les éviter, on peut essayer de ne pas y penser, mais personne n'y échappe. Et ben voilà, et Saint Paul est dedans. Tombant à terre. Alors maintenant, vous savez bien, en plus, que les imageries, non seulement, elle aurait pu être là, mais vous savez très bien que qu'est-ce que nous donnent toutes les imageries sur les images, sur la conversion de Paul. Il tombe de quoi? En plus, il tombe d'un cheval. Hein, il tombe d'un cheval. Bien sûr que, voilà, il tombe, c'était sûr. Mais pourquoi toujours? Mais c'est là où ça va très bien. Pourquoi? Parce que le cheval, c'est le lieu de l'arrogance, c'est le lieu de la force. Comme Jésus dira, mais qui ne veut pas venir entrer dans Jérusalem sur un cheval, il veut un petit de l'ânon. Parce que justement, le cheval, cet animal fier, beau, d'une beauté formidable, d'une intelligence, mais ça ne convient pas là. Ça convenait bien à saint Paul, parce que Paul avait beau marcher à pied, il était sur un cheval. Fier, sûr, avec sa loi et ça, il avait tout pour lui. La loi et tout le reste, alors bien sûr. Il tombe à terre. Quand on se convertit, en général, il se passe des choses. Parce qu'à l'intérieur, pour pouvoir vivre, on est bien obligé de se construire un édifice de conviction et de certitude. La vie est tellement complexe qu'il faut se donner des raisons de... Et quand le ressuscité apparaît là-dedans, ça tombe à terre. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Ah, ça non alors. « Qui es-tu, Seigneur ? Qu'est-ce qui me parle ? » demanda-t-il. Et lui, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Oh. Alors ça, fallait le faire quand même. Fallait le faire. Je suis Jésus. Il n'a jamais rencontré Jésus. Il n'a jamais entendu l'enseignement de Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Oh, ça va être une des grandes... Ça, c'est le grand mystère de saint Paul. Il en parle comme ça. La fin, il va y raconter. Comment sachons-nous ça? C'est simplement par la manière dont il l'aura raconté. Il va parler, il va comprendre, il va expliciter sa conversion. Et alors, eh bien, pour lui, c'est que la manière dont nous avons de voir Jésus aujourd'hui, c'est par ceux qui croient en son nom. Et ce qui lui vient et qui lui taraude, c'est que celui qui lui a envoyé cette parole, eh bien, c'est Jésus. Les chrétiens qu'il martyrise, c'est Jésus. C'est cette parole qui vient intérieurement, et ça sera une parole très forte quand il va parler du corps du Christ, hein, de cette église qui est le corps du Christ. Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Alors là, cette affaire, c'est sûr que Paul, pendant quelque temps, quand il est travaillé par ça, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas dans son assiette, Paul. Lui, si fougueux pour dire, non, ceux-là, vous prenez la femme et les enfants avec, on les ramène. Et Paul commence à être, non, laissez les enfants, pas besoin. Qu'est-ce qui lui arrive? Il taraudé de l'intérieur. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Saul se releva de terre, mais quoi qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ça, c'est pas mal aussi. Il y a des gens qui ont des yeux ouverts et qui ne voient rien. Mais il y a des gens qui, dans le mystère de cette expérience, sont bouleversés. La rencontre de Jésus ressuscité bouleverse toujours. Parce que les repères sont perdus. Il ne voyait rien. Il ne voyait rien comme d'habitude. Alors, bien sûr, le monde change. On le conduisit par la main, ça c'est beau. On le conduisit par la main. Saint Paul a l'impression qu'il a fallu qu'on le conduise. On lui explique, on lui dise, on lui remontre. Et conduire par la main, qu'est-ce que ça va être? C'est qu'il va avoir une catéchèse. Ben, pour qu'on lui explique les choses, il va recevoir l'enseignement de Jésus par la main, on va le conduire. On le conduit par la main. Et puis 3 jours durant, il resta sans voir. Aussi, les 3 jours, totalement symboliques. Hein, c'est évident, 3 jours sans voir. Ne mangeant et ne buvant rien. Alors bon, il y a tout le passage, on va le passer là. Hein, j'arrive au verset 17, parce que sinon on n'en finit pas. Verset 17, il y a toute l'histoire d'Ananie, justement. Parce que le mystère de Dieu, c'est que Dieu s'occupe d'un seul coup. Il y avait Étienne, il y avait Paul dans le mystère. Hein, c'est la manière dont les apôtres vont nous parler de la manière dont Dieu, ne travaillant que par influence, essaye de faire que les choses avancent. Et donc, d'un côté, il y a Étienne, on voit qu'il y a Paul, et puis il se passe des choses pour Paul. Maintenant, il faut qu'Ananie, il faut que tous des hommes, là, se mettent à faire ce qu'ils ont à faire. Souvenez-vous de notre dernière étude biblique. De nous dépend beaucoup. Nous sommes en grappe. Si je fais ce que j'ai à faire, il y a des gens qui attendent une parole de moi, il y a des gens qui attendent un acte de moi, parce que c'est le mystère de la vie comme ça. Hein, et on voit la manière dont on attrape la foi, c'est par d'homme, espèce de contagion progressive, quoi, d'homme à homme. Et donc il y a l'histoire d'Ananie, il a fallu qu'Ananie entende tout ça. Et donc, en effet, Ananie, capable d'entendre les intuitions. Quand on parle des intuitions, êtes-vous capable d'entendre vos intuitions? C'est capital. Hein, c'est une grande aventure, ça. Et on apprend ces choses-là. Alors, on apprend à les dégager. Comment faire pour dégager les intuitions? Comment faire pour ne pas prendre une vessie pour une lanterne? Comment faire? On apprend ça. Ça fait quand même longtemps. Et à la fois, il y a la tradition chrétienne, mais il y a aussi, aujourd'hui, encore plus. On a la chance d'avoir les sciences humaines qui nous apprennent à repérer des choses parce qu'on sait comment ça marche. Bon. Et Ananie a entendu. Alors Ananie, verset 17, partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saul. Voilà, il lui impose les mains. C'est pas qu'il dit « Je suis l'évêque et il faut que ça passe par moi, tu vois, c'est obligé. » Pourquoi impose-t-il les mains? Par quoi avons-nous commencé notre Jésus? Il y a les mains de Jésus qui sont dedans. c'est que l'amour se manifeste, c'est qu'il y a une tendresse. Mais tu es malade, Paul, tu ne vas pas. Première chose que Ananie lui a fait, il l'a pris sur son cœur. Celui qui persécute tous les Juifs, qui suivent la voie, il le prend sur son cœur. Elena, l'amour. L'amour se manifeste toujours par l'action. Et donc voilà, les mains. Il impose les mains à Paul et lui dit, « Saoul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur. Ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit-Saint. Tu vas voir maintenant. Pas seulement voir, mais tu vas voir. Tu vas voir clair. » Et c'est vrai que Paul voit clair. Et que quand on s'approche de Jésus, on voit clair. Une des premières choses, et ça, ce sera aussi les apôtres au moment de la Pentecôte, la manière dont Luc le dira, c'est qu'une des choses qui se passe quand ils font l'expérience par l'Esprit-Saint de la résurrection, c'est qu'ils ont une ouverture des Écritures. On peut apporter les Écritures parce qu'on est dans l'Esprit de la résurrection. Et donc, voilà, il se met à voir. Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue sur le champ et il fut baptisé. Mort et résurrection. Il fait l'expérience. Il accepte, ce qui est le mystère du baptême, c'est qu'on le plonge dans la mort et on le relève dans la résurrection de Jésus. Tu es mort et tu es ressuscité avec Jésus. Tu es un homme vivant maintenant. Vivant est ta vie nouvelle. Tu entres dans ton être de fils. Tu as eu la première naissance, mais oui. Et puis maintenant, tu as choisi la deuxième naissance. Tu as accueilli ton être de fils. Tu as reconnu ton père. Entre avec tes frères, dans ce que c'est. Il passa quelques jours avec les disciples à Damas, et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. L'illumination de Saint Paul, la manière dont Saint Paul fait l'expérience de la résurrection, comment de son cheminement, pas à pas, il accepte d'entrer dans l'abandon à sa source, qui est le Seigneur ressuscité. Troisième chapitre. Alors, le mystère du Fils. Le Fils, on a touché à Jésus de Nazareth, on a touché au ressuscité. Et maintenant, qui est-il, ce fils, que fait-il Alors, on le sait par la manière dont il est l'image du Dieu invisible. Alors, ça, on peut prendre ce passage quand même. On ne peut pas ne pas prendre ça maintenant. Dans l'Épître aux Colossiens, vous connaissez, chanter « Il est l'image du Dieu invisible ». Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Et là, on est au clair sur tout l'Évangile. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'image du Dieu invisible. Et alors, là, on va avancer sur le mystère de la création. Premier-né de toute créature. Avant qu'Abraham soit, j'étais. On retrouve bien ça. Avant qu'Abraham soit, j'étais. De ses pierres, voilà. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances. Alors ça, c'est formidable. Qui est-il, ce Fils ? Tout a été créé. Colossiens, chapitre 1er, tu y es, verset 15, et là on est au verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Alors voilà l'aventure. Qui est-il ? Il est l'image du Dieu invisible. Tout a été fait par lui. En lui, hein, et c'est là le mystère de Dieu Père, le Père fait les choses dans le Fils. Hein. Tout est fait dans le Fils. Pourquoi ? Parce que le mystère de Dieu Père, c'est de donner et de donner. Et il donne tout. Et le Fils reçoit. Et c'est là l'aventure. Comment est-ce que le mystère du Fils, c'est un mystère de réception ? Le Fils ne fait rien de lui-même. Et ça, c'est un amour, un étonnant amour de Jésus qui ne fait rien de lui-même, qui se reçoit intégralement et qui va aller jusqu'à l'extrême de se recevoir, de continuer à croire que dans ce lieu d'anéantissement qu'est sa mort, il se reçoit. Et c'est là la grande aventure, c'est parce qu'il se reçoit dans la mort, parce que la mort fait partie de l'aventure. Contrairement à ce qu'on peut y penser, hein, et là il y a une théologie hein, qui nous dit que la mort n'aurait existé que à cause du péché, et ça c'est une erreur, hein, c'est une certaine conception qui trouve sa racine, on trouve des raisons, mais la mort vient dans le monde parce que d'abord elle est naturelle. Hein. Sans la mort, nous ne serions pas là. Sans la mort, il n'y a pas d'évolution possible. Hein? S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'évolution possible. Les choses sont figées. C'est parce qu'il y a la mort que les choses peuvent avancer. Donc, mais alors, cette mort qui est la nôtre, qu'est-elle ? Si ce n'est l'aventure d'un passage. Et c'est dans sa mort que nous recevons la plénitude. Nous sommes faits fils dans la mort du Fils. Et en l'accueillant. Et voilà pourquoi le mystère du baptême, très tôt, ce sera ça. C'est parce que nous acceptons d'entrer dans la mort de Jésus, d'être fait un dans sa mort, que nous vivons avec lui. Et alors, bien sûr, qui est-il ? Eh bien, lui qui reçoit tout, donne tout. Et c'est ceux qui étaient avec lui ont vu. Hein, ils ont vu qu'il donnait tout. Et alors, qu'est-ce qu'il donnait particulièrement ? Il donnait son cœur. Jésus disait son intérieur tout le temps. Voilà pourquoi on a une intimité d'évangile. C'est que Jésus ne faisait pas des enseignements, il disait le fond de son cœur. Et il reprenait avec les disciples, il donnait aux gens ce qu'il pouvait, et quand il était avec les disciples, il leur partageait son cœur. Hein? La rencontre de Jésus, c'est un partage de cœur à cœur. Le partage en profondeur, c'est un mystère d'évangélisation. Alors, vous connaissez bien aussi hein, ce passage fantastique, faramineux, hein, de celui qui est l'image du Dieu invisible. Donc, on prend dans Jean chapitre 13, on ne peut pas ne pas prendre ça. À la fois, ça nous semble, c'est comme redire, ressasser, hein, mais comment ne pas le reprendre ? Jean chapitre 13, vous le connaissez bien, hein, c'est le lavement des pieds. Étonnant passage, bouleversant passage. 13.1. 13.1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge dont il se ceint, il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds, stop, arrête, jamais !» Et Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Et Pierre a compris. Pierre comprendra. Parce que ça, c'est le mystère de la résurrection. On ne peut comprendre ça que dans le mystère de la résurrection. C'est que Dieu est à notre service. Nous ne sommes pas faits pour être les serviteurs de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on lui rende un culte. Dieu ne veut pas qu'on lui construise des temples. Dieu est à notre service pour que nous allions au bout de l'amour qui est en nous, que nous allions au bout de ce qui n'a jamais existé encore aujourd'hui, de toutes ces potentialités, de toute cette émergence, hein, de tout ce qui peut sortir de nous. Il y en a. Voilà. Eh bien, Dieu est à notre service. Tu ne peux le savoir à présent, mais tu comprendras. Et au verset 16, hein, cette parole formidable. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Voilà. Et ça va être notre grande affaire, notre chapitre 4 qui arrive en courant, comme toujours. Chapitre 4, connaître le Fils pour être des fils et agir en fils. La seule chose qui intéresse, hein, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est l'action. Dieu n'est pas un contemplatif. Il est continuellement en train de faire. En ce moment, si le monde existe, c'est parce que Dieu est dedans et avec, il tient tout ça de partout. Aucun atome ne tient son énergie tout seul. Ben, ça fait du boulot quand même, hein? Ça fait du boulot. Les galaxies, tout ce bazar. Puis il n'y a pas que ce monde-là. Il y a surtout, tout ça n'est qu'une quelque chose à l'intérieur de ce mystère du Père et du Fils, d'une action incroyable. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, le mystère de la Trinité. Voilà pourquoi on a parlé, les théologiens parlent de ce qu'on appelle d'un espèce de truc qui va à une toute vitesse parce que le Père se donne d'une façon, le Fils reçoit et se donne et ça fait l'Esprit. C'est une espèce de tornade blanche. Dieu est un agir perpétuel, continuel. Et on le voit bien, c'est le mystère de la création. Dès que l'on rencontre Jésus ressuscité, ça bouillonne et ça se met à agir. Et là, bien, la grande aventure, hein, Saint Paul dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4, « Il fut envoyé dans le monde afin qu'en lui nous recevions la filiation. » C'est par Jésus que nous sommes faits fils. Et nous sommes vraiment, il nous dira, nous sommes vraiment les fils de Dieu. Alors tenez-vous droit quand même. C'est ça qu'il me dit souvent. Mais enfin, arrêtez vos petites histoires, redressez la tête, noblesse oblige, souriez. Voilà, c'est ça. Hein, sortez de... Mais enfin oh, voilà, ce sera tout le temps ça. Hein, toutes les lettres de Paul, la fin de lettre, sont une espèce d'exhortation. Et où il dit, mais enfin, mais redressez-vous. Mais prenez conscience de qui vous êtes, quoi. Ah oui, c'est vrai, d'accord, on se tient, d'accord. Bon, il ne s'agit pas de bien se tenir à table. Hein, il s'agit de votre beauté qui fait comme Marie-Madeleine. Mais souviens-toi de qui tu es. Oh, merveille que je suis. Ces pleurs d'abondance. Qui suis-je? Merveille que je suis. Hein, et ça, c'est l'aventure de la connaissance. Hein, et là, parce que ben, on va naître avec... Hein, ce n'est qu'en Jésus que nous accédons à notre être de fils. On parle de renaissance avec lui. Et les fondements de quelque chose, hein, toujours, les philosophes abordent des affaires comme ça, en trois éléments toujours. Connaissance, connaître, être, agir. Et par le Christ, vraiment, par le Seigneur Jésus, par la rencontre Jésus, par cette connaissance, on entre dans la densité de quel est notre être, hein, de notre participation à l'être, et nous sommes propulsés dans nos actions. Je m'arrête là, merci.